délicieux.
En ancien temps, c'était une boisson sacrée. En Égypte, les prêtresses faisaient de la bière. Chez les Celtes, c'était une boisson sacrée. Chez les Gaulois, c'était le fameux chaudron d'abondance qui donnait l'immortalité aux guerriers. Et c'était aussi l'apanage des femmes. Jusqu'au Moyen-Âge, c'était la femme qui brassait et qui faisait le pain, d'où la corrélation pain liquide, pain solide qu'on a donné au pain et à la bière.
On constate que depuis quelques années, il y a des petites brasseries qui refont des bières et des bières à l'ancienne. Il y a une petite bière que j'aime bien qui est la Fanette. Et pas une bière très forte. Il y a la Trébatte aussi. La Trébatte, elle a une particularité. Elle est fabriquée dans un pays, un petit village à côté d'Arras, où Verlaine allait souvent. Elle a dû en écluser des bières avec ses copains.
La bière, une nouvelle passion française. Je vous livre un seul chiffre qui permet de tout comprendre. En 2000, on comptait 100 brasseries dans notre pays. En 2016, c'est 8 fois plus, 815 brasseries exactement. Alors pourquoi la bière ? Se fait mousser de Lille à la Corse et de la Bretagne au Dauphiné en passant par les Bouches-du-Rhône. Le pays du vin serait-il devenu biérophile jusqu'à l'obsession ? Tenez par exemple, il se tient en ce moment, Dominique Hutin va nous en parler tout à l'heure, la Paris Beer Week, le premier festival d'Île-de-France entièrement consacré à la bière artisanale, avec quand même 150 événements dans toute la région, et cela jusqu'au 8 mai, le week-end prochain. Le boom de la bière made in France, on surfe sur cette vague de mousse avec deux invités qui nous font le plaisir d'être en notre compagnie en direct. Il y a d'abord Elisabeth Pierre, bonjour.
Bonjour François-Régis.
On est ravis de vous accueillir Elisabeth.
Moi aussi.
Votre métier, c'est zytologue ou biérologue. Lequel de ces deux mots vous préférez ?
Oh, peu importe, l'important c'est la passion qu'on met dans ce qu'on fait. Et donc du coup, moi j'aime beaucoup le mot zytologue parce que c'est un mot qui renvoie aux racines grecques. Zytos, c'est l'orge en grec, et c'est le nom aussi d'une des bières qui était vivace en Égypte ancienne, le zytom. Donc j'aime beaucoup cette évocation-là, et puis c'est le dernier mot du dictionnaire, donc c'est rigolo.
Ah ben voilà, ben là, donc c'est décidé, en ce dimanche 1er mai, vous serez cet officiel zytologue, et vous allez donc travailler pour un 1er mai, ce qui n'est pas banal. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous contribuez, Elisabeth, activement, depuis 20 ans, à cet élan national de la bière, à travers votre blog, lafilledelorge.com, vos conférences, vos ateliers de dégustation, vos nombreux livres sur le sujet, et votre petit dernier, où est-il ? Il est là, à ma gauche. C'est le guide Hachette des bières, donc chez Hachette, assez logiquement, où l'on retrouve une sélection de 1000 bières françaises et internationales, 300 brasseries. C'est la deuxième édition augmentée. C'est des questions qu'on va se poser ensemble, justement, sur cet élan de la bière tricolore. Et vous allez d'ailleurs nous faire goûter quelques-uns de vos coups de cœur. Il y a des bouteilles absolument partout sur le plateau dont on va déguster. Mais j'insiste à nouveau, on va boire avec modération, hein, n'est-ce pas, Elvira ? En parlant de coup de cœur, Elisabeth, vous nous avez fait connaître un brasseur qui incarne selon vous le renouveau des bières françaises. Oui. Il sévit au domaine de Sulose, dans une vieille bergerie, 600 hectares, vers Miramas, dans les Bouches-du-Rhône. Et il est au service d'une bière entièrement écologique, confectionnée pour la plupart des cuvées à partir de matières premières cultivées sur place en biodynamie. C'est Guillaume David, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir fait le voyage.
Eh ben, merci de m'avoir invité surtout.
Eh ben, non, on est vraiment ravis de vous recevoir. On est très curieux à l'idée de goûter vos bières. Vous êtes à l'origine donc avec votre associé Julien Gondard,
c'est ça, oui.
De ce projet ambitieux, et on a vraiment hâte d'en savoir davantage. Vous allez voir, chers auditeurs, c'est une sacrée bière, ou plutôt de sacrée cuvée, que nous apporte notre invité Guillaume David. Mes chroniqueurs, ils sont historiques, c'est Elvira Masson, Dominique Hutin. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Elvira Masson.
Oui.
Bonjour Dominique.
Bonjour. Je voudrais un petit bonjour. Juste un thé quand même dû de pensée, un peu chaude pour nos vignerons de Chablis du sud Bourgogne, oui. De la Loire, Ouyaïaï, de Chinon, Bourgogne, vous avez entendu passer cet épisode.
Il souffre.
Qui souffre, voilà. Les gelées noires qui ont précipité le vignoble dans un enfer blanc, 80% du vignoble touché dans ces coins-là. Donc on pense à eux. Ayez le geste qui sauve, buvez leur vin, ils vont en avoir besoin, ils vont avoir besoin de trésorerie pour les 24 mois qui se profilent.
C'est dit, on compatit et vous nous parlez bière quand même aujourd'hui, rassurez-nous.
Oui,
Dominique.
Sûr,
très bien,
bien sûr.
Avec une petite énigme surprise, j'imagine, Elvira Masson, vous mettez la bière à la pâte.
Bah oui, parce que la bière, ça ne se boit pas seulement, ça peut se manger. Ce ne sont pas nos amis nordistes qui vont nous dire le contraire, en cuisine évidemment, mais aussi en sucré, en pâtisserie,
oh,
en
le
gâteau.
Beau gâteau qui nous fait de l'œil juste à côté. La fine équipe qui fait mousser l'émission en régie, Michel Billou, Anne-Laure Cochet, Elisabeth Collet, Nadia Chougui, la programmation musicale est signée Djoubaka. Une bonne brasserie près de chez vous, une interrogation sur la bière, posez vos questions, je suis sûr qu'elles sont nombreuses. À la maison, sur notre mail, on va déguster @radiofrance.com et sur Twitter, avec le mot-clé, on va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
dégustation?
Alors, la dégustation, c'est pas tout de suite à la bouche. Excusez-moi, c'est pas comme ça qu'on pratique pour déguster la bière. On va déjà la regarder. On va la regarder, on va se rendre compte que cette bière blanche, elle n'est pas du tout limpide, elle est trouble. Tout simplement parce qu'il y a en suspension des levures, des millions et des millions de levures, donc qui se trouvent dans cette bière blanche. Donc, on regarde déjà. Ensuite, on va écouter. Et toutes les bières ont une chanson qui est totalement différente. Voilà, on entend ces bulles de mousse qui explosent, qui chantent. Et on pourrait faire l'expérience avec une autre bière, on aurait une autre chanson.
La chanson de la bière, ça simplait, un document INA de 1996, c'était la matinée des autres sur France Culture. Vous êtes un peu émue, Elisabeth Pierre?
Oui, je suis très très émue parce que j'ai reconnu la voix de mon ami Philippe Voluaire, qui était l'historien de la bière en France, qui a fait un bien énorme à tout le paysage de la bière en France, et surtout qui, je pense, serait très très heureux qu'on l'entende aujourd'hui, en fait. Et c'était un ami, et puis c'est quelqu'un qui m'a énormément appris. C'était le créateur du musée de la bière à Stenay.
D'accord. Eh bien, on lui rend hommage, il est décédé.
Oui, oui.
La musique de la bière, est-ce que ça vous parle, Elisabeth?
Tout à fait. Pour moi, la musique, c'est indissociable de la bière. La bière est indissociable de la musique. Et en plus, effectivement, comme le dit Philippe, ça, c'est une la mousse, elle chante, en fait. Hein, ce sont des notes. Et quand il y a autant de bières comme on en a aujourd'hui, on a autant de musique. Ce sont des univers très très proches. Hein. On trouve des corrélations, des correspondances entre bière et musique.
Eh bien, je vous propose, Elisabeth Pierre, d'entrée de jeu, de jouer de la musique avec une bouteille. Vous savez qu'on est un petit peu joueur dans cette émission. On vous propose tout simplement un petit exercice, auquel vous êtes habitué évidemment. C'est une dégustation à l'aveugle d'une bière qu'on a choisie comme ça, un peu au hasard, qui est sous sa chaussette. C'est Dominique qui l'a cachée sous une chaussette noire. Impossible de deviner son extraction, sa provenance, son origine. À vous de jouer et montrez-nous justement près du micro avec votre verre si la bière fait de la musique.
Ok, on va faire chanter cette bière.
Ah, là, il y a le petit pchit de la capsule.
Suspense.
Vous entendez? Ouh. Alors, voyons. Donc, nous avons eu le petit glouglou.
Oui.
Le petit pchit, le petit glouglou.
Et la mousse a fait un petit frémissement.
Voilà, la mousse, elle... Alors, moi, j'aime bien mettre à l'oreille.
Carrément.
Alors, là, personne n'en profite, c'est dommage.
Comme le coquillage sur la plage.
Exactement. On entend les bulles qui s'affairent, en fait, et qui font un petit grisouillis, un petit gazouillis, en fait, plutôt. Hein.
Et ça vous dit déjà quelque chose?
Oui, parce que là, on a une idée de la saturation de la bière, en fait, hein, de la carbonatation, du degré de saturation du CO2.
De la carbonatation, c'est ça.
On a vraiment quelque chose de parlant, déjà, hein, en son. Et donc, du coup, effectivement, oui, le sens de la, de l'eau, oui, est très important. Et puis là, maintenant, en termes de le deuxième sens tout de suite qui vient à l'esprit, qui vient en action, c'est l'œil.
Oui.
Et la vue, on a cette mousse qui est légèrement crémeuse, qui est pas tout à fait blanche. Et puis cette couleur de bière, on est sur un jaune, sur un vieil or un peu. Hein.
Presque paille.
Voilà, un peu paille, absolument. Et puis c'est très trouble.
Oui,
donc on
n'a
aucune transparence. On peut mettre le doigt derrière, on n'a absolument aucune transparence.
C'est plutôt bon signe quand c'est trouble, ça veut dire que c'est pas filtré?
Alors ça veut dire que là, il y a énormément de levures. C'est une bière qui est non filtrée, qui est bien sûr avec toutes ces levures en suspension et qui est volontairement comme ça. Mm-hmm. Donc le trouble est voulu et on a tout de suite maintenant le nez qui va rentrer en action.
Alors le nez. Vous reniflez ce verre à bière, qui est plutôt un verre à vin d'ailleurs, fourni par Dominique Hutin, mais c'est pas un problème pour la dégustation.
Donc au nez, on a un parfum assez citronné tout de suite, assez agrumé, très frais. Hein, c'est très frais, assez levuré aussi derrière, il y a un petit peu de levure qui arrive. Et puis une base de malt, de blé, je pense, là-dedans, c'est certainement...
La levure, vous le sentez, céréale. À une petite forme comme ça, une
d'acidité? Oui, c'est un petit peu piquant, petit peu piquant déjà au nez. Voilà, donc il y a... Et puis quand on revient, quand on aère le verre, en fait...
Est-ce que vous êtes déjà sur la voie, rien que au nez? Ou c'est compliqué?
Je pense qu'il y a tout de suite une indication sur une bière de blé. Je suppose que c'est une bière de blé, mais ça peut aussi être tout à fait autre chose. C'est-à-dire que comme on va en parler tout à l'heure, il y a beaucoup, beaucoup de croisements de style et beaucoup de liberté dans la bière. On peut tout à fait avoir autre chose qu'une bière de blé, là, hein, en style.
En bouche.
La D'accord.
Ça parle, les têtes. Ah,
j'ai l'impression qu'il y a eu comme une espèce de tilt.
Donc là, on a effectivement deux mondes qui sont présents dans cette bière. On a à la fois de l'onctuosité avec beaucoup, beaucoup de céréales.
Oui.
Donc on a vraisemblablement une bière avec une richesse en variété de malt et certainement de blé également. Je reviens sur le blé parce que c'est là où il n'y a pas de blé, mais il y a une onctuosité, voilà. On a vraiment une épaisseur, un côté crémeux en bouche. Et puis alors à côté, qui vient se taper dans cette onctuosité, on a cette acidité
oui.
qui rentre dans les joues et qui est vraiment vive. Hein, c'est
la
très
colonne
vif.
Vertébrale de cette bière.
Exactement. Oui. Voilà, donc on a une bière avec un côté surette très, très prononcé, du blé et du surette. Donc on a une bière de blé sur l'acidité. Donc je la traduis comme ça en goût.
Est-ce qu'on va donner le résultat des jeux, voilà. À moins que Dominique veuille faire un petit commentaire sur cette bière que vous avez aussi
non,
dans votre verre.
Non, je me rejoins, effectivement, ça louche un petit peu du côté des lambics, toute cette famille des gueuses belges avec cette acidité, on la pense spontanée, avec un côté très nature en final, on a un côté un petit peu réduction, mais pour le reste, on est sur l'acidité très clairement.
Pour éviter de se noyer, simplement, on a entendu lambic, gueuse, lambic, il s'agit là d'une bière sauvage.
D'une bière, en tout cas, avec des fermentations qu'on dit sauvages. De fermentation sauvage qui va utiliser des types de levures sauvages, donc de la famille des Brettanomyces. Donc on est sur quelque chose qui va donner des typicités sur l'acidité en fait.
C'est-à-dire pour un lambic concrètement, on n'introduit pas des levures.
Voilà, ce sont les levures ambiantes qui travaillent directement.
Des levures de l'air ambiant en fait.
Et la bière est laissée au contact de l'air justement. Donc ça donne ce profil tout à fait intéressant avec des notes d'abricot qu'on aurait pu attraper aussi.
Alors on va peut-être stopper le suspense, on va laisser peut-être notre invité, Guillaume David, donner le résultat des jeux. De quoi s'agit-il?
C'est notre Godzilla. Donc la gosse de la brasserie, donc on est tombé juste dans les acides, hein, c'est ça.
Oui.
Donc là on n'est pas sur une lambic, on est plutôt sur une sour, ce qu'on appelle bière surêtre.
Alors sour, il y a une connotation anglo-saxonne.
Voilà, il y a un côté anglo-saxon. C'est,
on peut penser au chou aussi, à la choucroute, à l'Allemagne.
Voilà, on peut penser à ça. C'est une fermentation lactique en fait, des bactéries lactiques qui transforment les sucres en acidité.
C'est ça.
Brassée au feu de bois.
Ouais, entre autres, c'est une des spécifiques de la brasserie. Ouais. On fait des bières biologiques, écologiques.
Et on peut parler effectivement d'une gauze.
Oui.
Alors racontez-nous ce que c'est qu'une gauze. G-O-S-E. Voilà. Il ne faut pas que nos auditeurs évidemment soient trop largués. Lambic, sour, gauze.
Ne pas confondre avec gueuse.
Oui,
qui est juste un peu différente. Donc la gauze, c'est une vieille bière allemande en fait, qui est brassée au centre de l'Allemagne, au niveau du Golsar, qui est une bière brassée donc avec des bactéries lactiques et du sel et de la coriandre.
Du sel?
Ouais. Donc nous, on a mis notre petite touche provençale, on va dire du sud. C'est de la fleur de sel de Camargue, donc qu'on met dedans. Elle vient juste à côté de chez nous et ça va très bien avec ce style-là.
Et on le sent en bouche,
c'est impeccable à l'apéritif parce que ça fait saliver, ça donne soif, hein, et donc on a vraiment ce côté très salin.
Et on sent effectivement cette finale saline, c'est vraiment très agréable et très rafraîchissant. La Godzilla, alors on imagine le jeu de mots qui se cache sous cette appellation, Goz donc comme cette vieille bière allemande qui est fermentée avec notamment du sel et de la coriandre. Vous êtes provençal, pas très très loin de Marseille. Où exactement ?
On est entre Istres et Miramas, exactement, sur le domaine de Sulloz, et donc ça, c'est à cheval sur les deux communes. Ça fait 600 hectares, on est en plein milieu d'une grande campagne avec 30 hectares de vignes, donc en coteau d'Aix, tout en biodynamie, des taureaux pour de la viande, tout en bio aussi, et des petits cochons, des noirs de Bigorre, des chèvres de chez nous, qui sont nourris, les cochons sont nourris à la drèche, il y a un peu un microcosmos autour de Sulloz.
Et j'avoue que la première fois qu'Elisabeth Pierre a évoqué votre incroyable projet qui a démarré il y a 4 ans, on est vraiment tombé sous le charme de votre démarche à la fois exigeante, militante, vertueuse, puisque sur ce grand domaine de 600 hectares, vous le disiez, c'est de la polyculture, il y a aussi de l'élevage, etc. Et vous êtes arrivé il y a 4 ans en dédiant une petite partie de cette superficie, en fait, à de la culture de céréales, lesquelles céréales, et de l'orge en particulier, vont servir effectivement à la fabrication d'une bière artisanale.
C'est ça, alors on a commencé par 2 hectares de céréales en orge et blé, cultivés toujours en biodynamie, puisque puisque c'est quand même la trame de Sulloz, et du houblon, donc pour l'instant une cinquantaine de pieds de 10 variétés différentes, et on a commencé à créer des bières à base de ces céréales et houblons. La première qui est sortie est la saison, oui. Qui est en fait une bière 100% de chez nous, avec cette connotation un peu de terroir et de millésime. Donc chaque année, en fait, on fait une bière qui change, qui n'est pas stéréotypée. On prend les houblons du, ce qu'on appelle les houblons du potager, mais
on prend les houblons. Oui, c'est ça. Dans votre, vous avez une houblonnière, en fait.
C'est
hein.
Ça, ouais, ouais.
Et donc pendant qu'Elisabeth Pierre est en train de me verser, non, pas ici, celle-là. Moi, j'ai pas goûté la première. Je veux bien goûter cette saison, qui est pour le coup une bière totalement autarcique. Vous le disiez.
C'est ça, voilà.
C'est votre céréale, c'est vos orges.
C'est ça.
Et c'est vos houblons.
C'est ça.
Cultivés sur place.
Cultivés sur place, maltés chez Malteur Eco, donc dans la Drôme. Et donc fait 100% chez nous, voilà. Donc chaque année ça change, les houblons on les récolte, oui. On ne les choisit pas, on les mélange et on donne la bière en gros que la nature nous a donnée.
Incroyable, ça c'est vraiment une bière pour le coup, une bière typiquement locale. On peut presque parler de bière de terroir. Elisabeth Pierre, est-ce que vous pouvez nous rappeler en un mot le rôle du houblon dans une bière? C'est vrai que on a l'impression que ces bières très houblonnées, avec ces notes comme ça un peu d'épices, de fleurs, herbacées, puis cette amertume, elles sont très à la mode aujourd'hui.
Oui, il y a eu un vrai retour ces dernières années des bières houblonnées. Il faut juste savoir qu'elles ont existé il y a... 19e, 18e siècle, évidemment, en Angleterre. En Grande-Bretagne, on faisait déjà des bières très houblonnées. Mmh. Et le houblon remonte au Moyen-Âge, dans l'utilisation de la bière. C'était tout simplement la plante utilisée pour conserver la bière.
C'est ça. Hein,
c'était à la base uniquement pour ça. Et ensuite, on a découvert...
Elle jouait un rôle antiseptique.
Voilà, tout à fait. Tout à fait.
Ça auparavant,
on mettait des plantes, des herbes, et tout un ensemble d'épices. Et au fil des siècles, les houblons se sont évidemment multipliés pour apporter autre chose. Et évidemment, bien sûr, la base amère, l'amertume et des arômes. Voilà. Mais après, on a effectivement un certain nombre de bières avec des styles très, très connus maintenant, comme évidemment l'IPA, qui est en fait tout simplement une bière. En fait, les styles, quand on parle de style, pour être vraiment très, très, très simple, c'est extrêmement simple. C'est un lieu, une date et puis des usages ou des contraintes. Hein. Donc là, on était en Grande-Bretagne. On avait une pratique 17e, 18e siècle de bière très houblonnée. Et il se trouve que ces bières très houblonnées, qui étaient la bière de l'élite, hein, de la bourgeoisie en Grande-Bretagne, étaient emmenées aux Indes à cette époque-là.
Indian puis, Pale Ale.
D'où Indian Pale Ale, absolument.
IPA, c'est
Indian
sigle.
Pale Ale.
Indian voilà. Pale Ale.
Voilà, India Ale. Pale Ale. Oui.
C'est ça.
Et le mot est tombé dans l'oubli. Et il est remis au goût du jour par les brasseurs états-uniens, donc dans les années 70.
C'est ça. Et là, c'est vrai que les IPA, ces bières très houblonnées qui ont presque parfois des parfums de fleurs, de chanvre.
Comme les portos qui avaient vocation à traverser les océans. On les fortifie avec du houblon pour les protéger.
Le sujet est particulièrement vaste, chers auditeurs, vous l'aurez compris. Les bières en général, les bières made in France en particulier, qu'on continue à évoquer dans un instant.
Sweetest one in town. You can search for miles around and no one that can be found. I got a smile, a wonderful smile, in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, girl, the one we need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said it I should be in the follies, hot tamales. They said it I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town. And unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a music master drop his fiddle, and a bald-headed man cut his hair in a minute. I'm a red-hot mama, red-hot mama, and I have to turn my damper down. One in town, you can search for miles around, and no one like me can be found. I got a smile, a beautiful smile, in a certain little way. Every time the boys get near me, they look at me and say, red hot mama, red hot mama, I'm the one they need. Red hot mama, some charmer, yes indeed. They said that I must be
follies, hot tamales. He said it, I got a pair of eyes just like old Svengali's. I confess that I possess the sweetest charms in town, and unless I miss my guest, the boys will follow me around. I can make a Texas farmer forget his hay, the devil throw his fork away. Red hot mama, but I have to turn my damper down.
La bière, nouvelle passion française, c'est le thème que l'on aborde aujourd'hui au menu dont on va déguster. Nous sommes en direct avec Elisabeth Pierre, biérologue ou zytologue, spécialiste experte de la bière, et un brasseur qui nous vient des Bouches-du-Rhône, Guillaume David, dont on vient de goûter une première bière. Enfin, on en a goûté deux, très exactement, absolument délicieuse. Cet engouement français de la bière, on l'a vu avec notamment le nombre de microbrasseries qui apparaissent. Les chiffres sont stupéfiants depuis une quinzaine d'années. Les chiffres se sont multipliés par 8, ce qui fait d'ailleurs de la France un pays très bien positionné dans le nombre de brasseries en Europe.
Oui, on est juste derrière l'Allemagne et l'Angleterre, faut savoir, en nombre de brasseries. Côte à côte avec l'Italie, donc deux pays viticoles de tradition qui sont juste derrière les deux principaux pays brassicoles. Donc c'est, on est bien sûr dans la lunette de tous les amateurs de bière au monde.
Parce que ce qui est paradoxal, c'est qu'on est le pays du vin. On est loin d'être le premier consommateur d'Europe. On est même très loin derrière les Tchèques et les Allemands en question consommation de bière. Comment on explique qu'un jour Guillaume David, on ait envie de s'installer, de brasser de la bière? Est-ce que c'est un acte de résistance, par exemple, par rapport à l'industrialisation, l'uniformisation, la standardisation de la bière? Est-ce que c'est la volonté d'être de construire le reflet d'un terroir?
Ouais, il y a cette part-là. Après, c'est vrai que moi, je viens de l'univers du vin, à la base. Donc, du coup, j'avais toujours dans l'esprit de créer quelque chose qui vient de la nature. J'ai cet esprit terroir. J'étais un peu bercé avec les vignerons nature aussi, et grâce à Guillaume Lefebvre dans ce milieu-là. Et petit à petit, je me suis un peu sorti du milieu et je voyais que ça marchait plus, je travaillais dans une autre branche.
qui n'avait pas grand-chose à voir avec
du tout.
L'activité brassicole.
C'est ça. Et du coup, je me suis dit, créer quelque chose. Aujourd'hui, la bière était là. Nous, on brassait chez nous avec Julien dans sa cuisine d'été pendant des années en brasseur amateur. Quoi.
Oui.
Et la cohésion s'est faite facilement avec Guillaume Lefebvre qui nous a proposé un local, donc une vieille bergerie sur le domaine. Et avec Julien qui est un ami d'enfance, on se connaît depuis qu'on est tout petit, la maternelle. On s'est dit on va créer quelque chose et on est parti sur la bière parce que ça plaisait à notre famille et nos amis et voilà, c'est parti de là en fait.
Et là vous avez réussi vraiment à cocher toutes les cases d'une démarche vertueuse, à commencer par l'eau qui est fournie localement, elle vient des nappes phréatiques, elle est bonne, c'est une autre source.
Alors voilà, on est sur la nappe de Croc, donc qui est un des plus gros réservoirs d'eau de France.
De Croc la bière.
De Croc, oui,
il a osé.
Petit jeu de mots.
C'est R-A-U évidemment.
Voilà. Donc on a notre eau directement de cette nappe qui est dynamisée puisqu'on dynamise toutes nos eaux et à partir de là tout découle avec le houblon, l'orge, le blé
qui sont donc des matières biologiques. Vous chauffez également vos outils de transformation, vous les chauffez au feu de bois, c'est ça?
C'est ça,
incroyable.
Donc, on a mis 6 mois à monter une machine qui nous correspondait qui est partie sur une idée des alambics de cognac en fait. Et donc du coup, on l'a adapté un peu à notre sauce et on a fait notre matériel avec ça et ça marche très bien. Voilà, donc c'est la démarche en fait, faire des bières bio écologiquement, donc sans roger, sans rien. Quoi.
Vous avez expérimenté combien de recettes différentes en termes de bière selon les styles et les recettes
Alors là, nous, en ce moment, dans notre gamme, on en a une quinzaine.
Oui.
Après, on en a expérimenté d'autres qui sont en attente ou pas forcément réussite. Et donc du coup, on tombe dans tous les styles, c'est-à-dire sur des bières faciles à boire, des bières acides, des bières amères. Donc on parlait de lambic tout à l'heure, de gose, de gueuse, donc ça c'est les bières acides. Et on part aussi sur ce qu'on disait aussi sur les IPA, les rye IPA,
rye c'est avoine, hein?
Non, c'est
seigle, pardon, excusez-moi, oui. C'est haute avoine en anglais, excusez-moi.
Donc bière à base
bière
de seigle, après les mélanges de céréales et puis de plus en plus des élevages en barrique de chêne autour des lambics.
Est-ce qu'on peut réussir à faire de la bière artisanale un produit encore accessible? Est-ce qu'on peut s'offrir vos bières pour des prix raisonnables? Ou est-ce que la méthode artisanale fait que, fatalement, le prix pour le consommateur augmente?
Non, je pense que c'est vraiment faisable pour beaucoup de bières artisanales d'être accessibles. Il y a tous les styles, donc les bières les plus faciles sont les moins chères entre guillemets puisque c'est celles qui sont le plus abordables. Après, c'est sûr qu'il y a des bières un peu plus chères avec des élevages en fût longs, avec beaucoup plus d'houblon qui est aujourd'hui la matière première qui coûte très cher. C'est un peu d'ailleurs le problème un peu pour tous les brasseurs en ce moment. Et donc du coup, mais voilà, c'est sûr qu'on est un poil plus cher que la bière industrielle.
Et pour ce qui est du houblon, il y a une vraie différence de prix selon le type de houblon,
oui.
Sa constitution.
Voilà, en fait, selon les houblons qu'on va utiliser dans nos bières, on va avoir et la provenance, parce que les houblons ne viennent pas tous de France. On peut, pour les pays les plus proches, c'est l'Allemagne, l'Angleterre, et après ça peut venir du Nord États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande. Donc,
une fourchette de prix pour des bouteilles de 33 centilitres chez vous
Ça va de 2,50€ à 3,50€.
Le prix de la bière, Elisabeth Pierre?
Alors, je trouve qu'il est tout à fait intéressant de souligner que ces bières locales, elles sont en vente directe très, très souvent, en circuit court. Donc, on n'est pas du tout sur des prix comparables au prix final d'autres bières qu'on va trouver avec beaucoup, beaucoup d'intermédiaires. Mm-hmm. Donc, l'intérêt de ces bières locales, qui se multiplient partout, c'est d'une part le fait qu'elles sont souvent en vente directe à la brasserie, sur les marchés, donc dans des caves qui se multiplient maintenant de plus en plus. On a des caves dans la Drôme, comme à Cray, par exemple. Il y a une cave à bière à Cray dans la Drôme. Donc, voilà. Et la deuxième chose, c'est que les matières premières sont de plus en plus locales. Donc, il y a un mouvement en faveur des houblons locaux, des orges, des blés locaux. Donc,
je vous ai posé une question tout à l'heure à laquelle vous n'avez pas vraiment répondu. Je ne vous ai pas laissé la chance de répondre. Voilà. D'ailleurs, je vous ai coupé directement, mais c'est une question qui est importante, qui est peut-être bien d'ailleurs au cœur de notre émission. On va d'ailleurs faire un peu court parce qu'on croit en fait sous les questions d'auditeurs, et vous allez en avoir quelques-unes dans un instant par Elvira. On disait bière de terroir. Vous y croyez à cette finalité, l'idée de faire une bière qui est encore une fois le reflet d'un territoire, d'un climat, d'un savoir-faire?
Bien sûr, c'est un retour, c'est une réappropriation du territoire en fait. On était dans cette situation-là il y a un siècle, donc on est juste dans un retour, dans une réappropriation. Hier j'étais à Festibière à Clermont-Ferrand, il y a déjà 5 brasseurs sur les 18 présents qui étaient dans cette démarche de replanter avec des agriculteurs locaux, des orges locales, des variétés de blé, et pour les vendre aux brasseurs directement et aux boulangers directement. Donc la même chose pour le houblon, il y a des plantations qui sont en projet et qui sont en vrai en Rhône-Alpes, en Bretagne, etc., partout. Et toi, Guillaume, tu vas planter bien sûr tes propres pieds.
Mais pour légitimer cette thèse, il faut parler de l'eau.
Alors l'eau, bien sûr, et le premier on va dire sujet lié au terroir, c'est l'eau, bien sûr. Et c'est ce même l'eau qui avant les matières premières, qui explique les typicités des styles et l'histoire des styles. Le brasseur faisait avec l'eau qu'il avait, tout simplement. Alors maintenant, effectivement, c'est la démarche des brasseurs locaux. Il y en a un dans la Marne, par exemple, qui est avec une démarche de la plus petite empreinte carbone possible. C'est Jean-Bernard Guyot à Orgemont, à côté de Reims. Bah lui, il est en agroforesterie, il est en panneauvoltaïque, son but c'est de
dans un projet, j'aurais presque envie de dire jusqu'au boutiste, tourné vers l'écologie.
Voilà. Donc c'est bien sûr, j'y crois.
Et fondamentalement vertueux, ce qui est naturellement une excellente nouvelle.
C'est un mouvement.
Pendant qu'Elvira vous glisse quelques questions à l'oreille, est-ce que vous auriez un coup de cœur comme ça que vous nous avez rapporté de Clermont-Ferrand ou pas?
Oui, alors j'ai un coup de cœur absolu, j'en ai deux.
Vous le faites passer, d'accord. On va le goûter et vous nous en dites un mot juste après, Elvira.
Il y a notamment une question dégustation qui revient pas mal sous la plume de nos auditeurs. À quelle température faut-il servir la bière? Et la température dépend-elle du type de bière que l'on propose à
Elisabeth
dégustation
Pierre, la température de dégustation de la
Tout
bière
Tout dépend des styles de bière, justement, et des moments de consommation. Donc une bière comme je suis en train de servir, là on est sur deux ale, sur deux bières fumées, donc avec une même base de bière fumée en version ale et en version lager. Donc je fais suivre en même temps les deux. L'idée, c'est pédagogiquement de comprendre un peu l'incidence d'une levure.
En l'occurrence, c'est Armalté, bière de l'instant, qui se trouve à Annecy, 74.
J'adore. En plus, c'est une brasseuse.
C'est une brasseuse, Stéphanie. Oui.
Je vois très bien.
Et la Savoie, Haute-Savoie, grand terroir. terreau de brasserie artisanale.
Et c'est bien cette brasseuse d'Annecy qui fait une bière noire.
Oui, une blanche noire.
Une bière blanche noire.
Voilà, que vous avez amenée également. Magnifique. Voilà,
qu'on peut goûter. On en est très heureux.
Et effectivement, mon coup de cœur, là, sur un plan, parce que Stéphanie fait des bières autour des styles, justement, traditionnels et dans la pédagogie complète, puisqu'elle a eu à cœur de montrer la différence sur une même recette avec des bases de malt fumé, l'incidence donc de la levure de fermentation basse et la levure de fermentation haute. Donc on a au final une ale fumée et une lager fumée.
Justement, on avait une question sur fermentation basse et fermentation haute, ça devient assez technique, Elvira ?
Oui, tout simplement, c'est un auditeur, Pato Pelado, qui nous demande quelle est la différence entre les bières de fermentation haute et basse. C'est une question qui revient beaucoup aussi.
Mm-hmm. C'est ce qu'on appelle de façon simple lager et ale. C'est tout simplement en fait la deuxième et la troisième habitude de fabrication de la bière après la première qui était la sauvage. Hein, donc oui, de tout temps, on a fabriqué la bière comme on a dit tout à l'heure. Ensuite, on a appris, c'était à peu près au moment du Moyen-Âge, on a appris à récolter cette levure et on fabriquait la bière évidemment à température ambiante. Et le mot ale vient en fait tout simplement d'une connotation d'un vieux mot en anglais qui veut dire alt, et en allemand alt qui veut dire vieux, hein, oui. Vieille méthode. Et puis la plus récente, c'est la troisième, c'est un mot allemand, puisque cette méthode est née en fait, c'est un héritage germanique,
oui.
Lager, qui veut dire stocker, c'est-à-dire que c'est une méthode pour faire fermenter et garder la bière à froid, avec des levures qui travaillent à froid. Donc la différence en fait, c'est que derrière on a des styles très très différents dans chacune de ces catégories de familles de levures, avec une particularité qu'on doit sentir là avec sa bière fumée, c'est qu'avec
incroyable,
la lager,
cette bière fumée, hein.
On a plus de malt qui s'exprime,
c'est
et
ça.
Avec la ale, on a des esters et on a des arômes qui se rajoutent. Voilà la grande différence.
On parle de fumée, on pourrait parler de lardée, parce qu'on a une note animale,
oui,
de lard fumé.
Exactement, de lard
fumé. Qui appelle, ouais. Qui donne faim.
Et on peut dire que c'est d'ailleurs étonnamment, enfin on va pas faire de jeu de mots, enfin on va pas faire de raccourcis sur c'est bière de femme, etc. Non mais j'ai presque envie de dire que c'est une bière finalement assez virile. Elle est, elle est dans des tonalités qui sont,
assez appuyées, oui.
On est un peu dans la cabane de David Croquette, quoi. Mais ce qui est d'ailleurs excellent, un très bon profil aromatique. Donc ale, plutôt un style de fermentation, on l'a compris, anglo-saxon, anglais. Lager,
en
plutôt
histoire, oui, tout à fait. L'origine.
Plutôt allemand. Mm-hmm. Décidément, ce monde de la bière est aussi méconnu que passionnant. Elvira,
un petit creux.
Bah oui, justement, on a tous très faim parce que
on a étanché un petit peu de bière.
Oui.
La bière s'utilise en pâtisserie. Alors en cuisine, on le sait, en pâtisserie, enfin en sucré, la bière se travaille de manière la plus discrète jusqu'à la plus manifeste. Alors la bière d'abord comme agent de texture, une touche de bière dans la pâte à crêpes. J'imagine que c'est ce que vous faites, Elisabeth. En tout cas, François-Régis, vous, c'est votre truc pour réussir la pâte. Le principe d'une pâte à crêpes, c'est de la farine et de l'eau, ou en tout cas un liquide, pas forcément deux. Contrairement à ce qu'on fait à la maison. Traditionnellement, on utilise du lait, mais on peut parfaitement utiliser un autre liquide comme l'explique Hervétis régulièrement, du thé, du bouillon. Le physico-chimiste. Du thé, du bouillon, du café, et bien sûr de la bière.
Café, ouais. D'accord.
Pour des crêpes très très avec une forte typicité. Et la bière est particulièrement recommandée parce que le gaz carbonique qu'elle contient conférera à la texture de la pâte à crêpes quelque chose de plus léger, de plus aéré.
Vous obtenez des blinis, quoi.
C'est un peu ça l'idée, ouais.
Mais disons que ça donne une crêpe certainement plus moelleuse, plus aérienne en bouche. Hein.
Plus aérienne, avec la dentelle, cette fameuse dentelle. Quand on cherche à faire de la dentelle sur les crêpes, c'est avec de la bière.
Ce côté un peu cloqué.
Donc la moitié du liquide, on enlève la moitié du lait, que l'on remplace par une bière de quel profil ? Mm-hmm. Blonde ?
Alors,
ça dépend des goûts, bien sûr, mais surtout avec des arômes et avec des levures. Si vous prenez une bière qui n'a plus de levure, donc une bière pasteurisée, vous n'avez pas le résultat recherché.
Donc,
là, il faut prendre des bières non pasteurisées,
locales,
non filtrées, bien sûr, des bières locales. Oui.
Artisanales.
On peut y aller également, franchement, on peut carrément remplacer tout le liquide par la bière.
Oui, c'est ce
là,
que
c'est
je
sport.
Fais.
Vous l'avez tenté, c'est Elisabeth ?
C'est ce que je fais tout le temps, je ne mets pas de lait.
Et ça donne quoi ?
Mais ça donne une légèreté bien plus importante. le côté dentelle dont je parlais est magnifique.
Mais ça apporte un profil aromatique un peu typé quand même.
Et ça donne des arômes. Ça donne des arômes,
mais pas
du tout d'amertume. Mes enfants adorent, donc depuis qu'ils sont tout petits.
Vos enfants sont à la bière depuis qu'ils ont 3 ans.
Depuis la maternelle, c'est très
bravo. Et puis là, on va s'apprêter à découper un magnifique gâteau avec un dôme tout blanc.
Avant de venir à ce gâteau, François-Régis, la bière, pour donner une petite touche nordiste, alors la bière en cuisine flamande, on connaît, la carbonade notamment, ce plat emblématique de la cuisine nordiste. Mais une tarte à la bière, ça vous parle ? Vous avez goûté, c'est Elisabeth ?
Oui, c'est une
tarte à la cassonade
tradition,
ou à la
vergeoise. Voilà, c'est un dessert traditionnel. Et
délicieux.
Et il faut absolument l'accompagner, bien sûr, d'une bière pour rafraîchir un peu
le palais. Alors c'est une pâte sablée en général, avec un appareil, une garniture qui est composée de cassonade, d'œufs, de bière et de beurre doux. Et ça donne cet appareil fondant, légèrement teinté d'amertume, extrêmement gourmand. Et pour finir, alors la bière, là c'est plus une petite touche, c'est la bière comme ingrédient principal ou presque. Ça fait des années que je vois passer une recette de gâteau au chocolat à la Guinness, dans la presse anglo-saxonne et sur les blogs de cuisine anglo-saxon. Un gâteau à la stout.
Vous cherchez, vous aviez besoin d'un prénom.
Définition de stout, il s'agit donc de bière brune.
Alors c'est une bière brune avec des malts torréfiés. Hein. C'est une bière qui est apparue en fait en Grande-Bretagne, en Angleterre précisément, dans la mouvance des porteurs, qui étaient des bières avec des malts bruns. Et le mot stout, au départ, c'était un mot qui voulait dire tassé. Donc on mettait plus de matière. Et il y a eu l'invention de la tourraille qui a fait qu'on a pu faire
la
des
tourraille,
porteurs.
Pardon.
La tourraille, c'est une tour, en fait, dans laquelle on tourraille, on torréfie, en fait, les grains de malt.
Les différentes couleurs de bière, plus c'est foncé, plus le malt est caramélisé ou torréfié, hein, c'est
plus,
ça?
Plus il est torréfié, plus on monte en température, plus il est torréfié.
C'est
donc
ça.
Quand on a su, effectivement, maîtriser les malts torréfiés, eh bien, on a finalement eu deux directions. Donc, pareil, on a trouvé les stouts et les porteurs. Et c'est comme ça qu'ils sont restés.
Et du coup, effectivement, comme c'est une bière qui est hautement torréfiée...
J'ai un truc à vous dire.
Taisez-vous, François.
Non, franchement, j'insiste. C'est bon. C'est même très bon. Je sais pas
une
ce qui vous arrive.
Une première mondiale.
Il y a de la bière dedans.
Elle est... Non, franchement, vous en pensez quoi, Guillaume, David?
La bouche pleine.
Mais justement, c'est bon signe.
C'est super bon.
Non, mais
attendez,
c'est
je vais vous dire de quoi il retourne.
Et en plus le petit topping, comme on dit, ça, je vais me faire des amis auprès de nos auditeurs.
Le glaçage, vous voulez dire.
Le glaçage, absolument. Ça apporte une onctuosité pour un gâteau au chocolat un peu rustique, mais c'est délicieux.
Alors, pour résumer, la stout étant une bière qui a des arômes très torréfiés, donc on peut imaginer que ça joue un peu du registre du café ou du cacao.
Tout à fait.
Il paraissait assez logique d'imaginer une recette de gâteau au chocolat à la stout. C'est une recette qui a été créée par Nigella Lawson, qui est la papesse de la cuisine feel good, comme on dit en Angleterre. Et elle n'y va pas avec le dos de la cuillère en matière de sucre. Et c'est ce qui me rebutait un peu. 400 grammes de sucre, avec en plus un glaçage, ça m'a fait un peu paniquer. Un glaçage qui comprenait 250 grammes de sucre. Donc j'ai un peu bidouillé.
C'est pour ça que votre gâteau n'est pas sucré en fait. Franchement, il est délicieux.
J'ai réduit les proportions.
D'ailleurs, j'invite tous nos auditeurs à le tester puisque la recette est en ligne. Oui. S'ils n'aiment pas, ils n'ont qu'à nous écrire.
Avec une bouteille entière de Guinness, hein, 33 centilitres, mais j'ai réduit le sucre à 280 grammes, de la farine, du beurre demi-sel, du cacao en poudre, du chocolat noir à 70%, 4 œufs entiers. Et pour le glaçage, effectivement, il y a 200 grammes de
timbre. Au rang des ingrédients, justement, Elvira, vous avez cité une marque, on est obligé de le dire, Guinness, ça fait le pont avec les stouts dont on parlait juste à l'heure. Pour illustrer, je pense que les gens le connaissent un tout petit peu.
Sachant que ce gâteau, on peut le faire avec une stout artisanale. Hein. Guinness, c'est comme le...
Vous n'avez rien contre la Guinness? C'est une bière industrielle.
C'est le stout le plus connu au monde.
Oui.
C'est une référence en termes d'Irish stout, parce que maintenant, on est sur une marque irlandaise. Mm-hmm. Mais ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le stout est né en Grande-Bretagne. Toutes les brasseries locales font des bières torréfiées qu'ils appellent stout ou milk stout ou,
c'est ça.
Ou
donc,
double stout
libre
ou, en
à vous
fonction
à la
maison, de la variation.
D'utiliser des stouts effectivement artisanales. On se retrouve dans un instant pour continuer à évoquer la bière, mais également en recette. Bravo encore Elvira pour ce fabuleux gâteau qui, j'en suis sûr, va rencontrer beaucoup de succès. On écoute tout de suite Skateboarding sous morphine. Ça ne peut être que Dionysos.
Skateboarding sous morphine à la tombée de la nuit. Charlie Chaplin vole un vélib pour m'escorter à Belleville. Gainsbourg est de retour pour réparer les étoiles explosées. Mon crâne de nouveau-né hanté. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de nuit. Oh mes héros, qu'est-ce que c'est beau se faire sauver la vie à la tombée de nuit. Oh capitaine, mon capitaine, le voyage n'est pas terminé. I'm your man, Walt Whitman, je suis libre comme des livres sauvés. J'essaie, me répéto, c'est mon costume d'auto-super-héros. Un grand chapeau pour garder les rêves au chaud. On est héros. Qu'est-ce que c'est beau. Se faire sauver la vie à la tombée de nuit. Oh, mes héros, qu'est-ce que c'est beau de se faire sauver la vie à la tombée de la nuit. Sous la neige et sous la pluie, à la tombée de la nuit. Un policier me regardait passer. Un oiseau s'est posé au bout de son fusil et je me suis envolé.
La bière dans les verres dont on va déguster, je me fais un peu rhabiller pour l'été, Elvira.
Disons que vous avez ému certains de nos auditeurs et auditrices. Violaine Quinchon en particulier. Ah non, pitié, ne parlez pas de bière virile. J'en ai assez que les serveurs rétorquent, mais mademoiselle, c'est une bière brune. Dès que j'ai le malheur d'en commander une.
Elle n'a pas tort. Je voulais juste simplement dire que le fumet de cette bière assez impressionnante, art maltais, bière de l'instant, était, comment dire, un peu rustique, mais dans le bon sens du terme.
Registre appuyé, bien sûr.
Voilà, registre appuyé. Oubliez l'adjectif viril. Je m'en excuse humblement. Elisabeth Pierre, nous sommes au rayon recettes. Vous avez une petite surprise à nous faire déguster. C'est dans un petit pot, ça ressemble à du miel, mais ça n'a rien à voir.
Oui, ça ressemble à du miel. Ça a un petit peu de goût de miel aussi, mais ça n'est pas du miel. C'est une gelée à la bière. C'est avec une gelée à la bière de Hopley Day, donc la bière houblonnée de Stéphanie. C'est tout simple de faire une gelée en fait. Il suffit d'ajouter du sucre à la bière, de faire cuire, d'ajouter un petit peu d'agar-agar, et puis ça fait une gelée de bière. Maintenant, là, c'est une recette un peu plus travaillée. Donc on a à la base, pour remplacer la pectine, on a utilisé du jus de pomme. Donc ça donne déjà quelque chose de plus travaillé, de plus fruité. Donc un tiers quasiment de jus de pomme, de bière donc houblonnée, avec des arômes donc fruités aussi, bien
donc
sûr.
Donc une IPA par exemple.
Une IPA, absolument.
C'est une
IPA, absolument. Et au final, on a quelque chose que je vous invite à goûter, qui est extrêmement doux, extrêmement, enfin, ça a un goût absolument magnifique.
Qu'est-ce qu'on en fait à la maison d'une gelée de bière,
Elisabeth ? On accompagne ce type de gelée. J'ai fait des bêtises là. On accompagne ce type de gelée avec notamment le foie gras, bien sûr.
Oui.
Et puis alors plus quotidiennement. Des volailles.
Oui.
Des volailles. Du gibier, bien sûr,
bonne
si on
terrine.
Fait une bière, effectivement. Une
ou des crêpes à la bière.
ou des crêpes. Avec des crêpes, c'est très, très bon. Et puis, alors, côté terrine et côté gibier ou viande, on va
blanche.
Utiliser plutôt une bière noire, une bière torréfiée pour faire le même type de gelée.
Oui.
Donc, on est vraiment en fonction des. Là, avec toutes les bières qu'on a sur le plateau, on peut faire 15 gelées différentes
on
qu'on va utiliser
sur,
avec des accompagnements très variés.
On peut jouer
et bien
sur les palettes
sûr,
aromatiques.
Fromage, bien sûr. Le fromage.
Et fromage, évidemment. Et là, on a la bonne nouvelle, c'est que votre recette de gelée de bière figure sur franceinter.fr à la page on va déguster. 75 centilitres de bière plutôt houblonnée, 50 centilitres de jus de pomme, 80 grammes de sucre en poudre, un sachet d'agar-agar et ensuite c'est tout
voilà.
Simple. On y va et on obtient une jolie gelée pour accompagner tous les plats que vous avez énumérés. Dominique ?
Oui.
Vous avez trouvé le moyen de dégoter une bière que personne ne connaît autour de ce plateau, si ?
Bah, il me semble. Écoutez, ça sera encore une avant-première mondiale. Cette émission est spécialement riche. Non, mais c'est intéressant parce qu'on a dit tout à l'heure la capacité, grâce à la bière, pour beaucoup de gens de changer de vie. Mais là, c'est un petit peu le cas. Effectivement, donc je vous laisse goûter. C'est vraiment.
C'est où cette d'ailleurs bière, j'aimerais bien goûter.
Alors, elle circule, elle est là. Tenez, prenez
Merci.
Ce verre. Je ne vous dévoile pas sa provenance. Ce qui serait intéressant, c'est que vous donniez cet avis parce que, au final, cette bière sort officiellement demain.
On va peut-être demander son avis à Guillaume David. Vous l'avez goûté ou pas ? Elle est devant vous.
Oui, ouais, je l'ai goûté. Alors je sens quelque chose que je connais un peu déjà.
Ouais.
Alors peut-être que je me trompe. Hein.
Oh,
mais
c'est agrumé pour le coup.
Ouais, mais du coup...
Alors, vous avez raison, parce c'est qu'effectivement...
Pour le malt est local. Oui,
bravo. Ouais. Et c'est le même que vous, celui que vous avez évoqué tout à l'heure.
On ressent, il y a une typicité qu'on retrouve dans cette
bière. Comment vous distinguez un malt? Là, ça devient extrêmement
très
technique.
Très pointu.
En fait, à force de goûter mes cuves, je retrouve un peu de goût de mes cuves dans cette bière, en fait.
Vous êtes en train de dire qu'au domaine de Sulose, à Miramas, près de Marseille, dans votre domaine, vous utilisez les mêmes malts qui ont servi à faire cette bière que vous avez devant vous?
Alors, pas tout à fait, mais il y a, en fait, je pense, une patte du malteur qui se retrouve, en fait, dans ce malt.
Bravo.
Qu'on peut retrouver un peu dans cette bière, en fait.
Alors, on va vous donner un point, parce que effectivement, ce sont 4 maltes différents qui nous viennent de la Drôme, du nom du fournisseur que vous avez évoqué tout à l'heure.
Des malteurs éco.
Bravo.
Malteurs éco, dans la Drôme.
Cette brasserie, 26. C'est une... Ah, monsieur, tant de sa chance, bravo. Un point pour Frédéric, tiens, je l'enlève sur le vif. Bonsoir, Régis Gaudry. Voilà. Brasserie du Mont Ventoux. Ce nom n'existait pas jusqu'alors, c'est sa première bière, elle est créée, elle sort demain. Vous l'avez goûtée, alors pour compléter votre tableau, c'est une American Ale, fermentation haute, brassage en multipalier, pas de filtration, ajout de miel bio du Ventoux pendant la fermentation. Voilà, c'est Alexandre de Zorzi qui est le géniteur. Son objectif, il dit très simplement, c'est désaltérer les sportifs après avoir affronté une montée du Mont Ventoux et ça coûte 3 euros. Alors, comme on accueillait notre grande prêtresse du brassin, qu'est-ce que je dis ? Notre phare de la mousse, notre vigie de la bulle française.
Elle rougit, Elisabeth Pierre.
J'ai fait un petit effort, j'ai dégusté 45 bières. Alors, il ne s'agissait pas de faire un tour de France de toutes les brasseries artisanales. Non, simplement, on a dit tout à l'heure que les agendas des salons brassicoles étaient spécialement foisonnants. Donc, ces bières sont toutes issues de salons. C'est Planète Bière à Paris, c'est les Houblonnades à Dijon, le Lyon Bière Festival de rue 89 et de Biéronomie. Et enfin, vous l'avez dit tout à l'heure François-Régis, Paris Beer Week a commencé le 28 et qui se déroule jusqu'au 8 mai. Alors, moi, c'était intéressant parce que ça me permettait aussi de dresser un petit bilan. Ça fait 10 ans que je goûte des bières artisanales et je voulais voir un petit peu où on en était. Et je dois témoigner quand même qu'il y a 10 ans, des bières pour être artisanales étaient très, très, très artisanales, parfois même aromatisées pour servir de cache-misère. Et de ce point de vue, la qualité intrinsèque des bières, je pense que vous serez d'accord avec moi, Elisabeth, a explosé. Vraiment, on a des choses qui sont étayées, avérées, qui tiennent la route. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est cette dichotomie toujours plus forte entre les industriels, les gros artisans et puis les petits faiseurs avec des résultats organoleptiques qui nous rappellent que, ben oui, dès qu'on fait des gros volumes, on accouche de bières qui sont forcément d'expression très consensuelle. Je le dis en termes diplomatiques. Toujours plus de style qui habite le paysage, ça on a appuyé dessus.
De diversité, oui.
Oui, absolument. Et puis quand même, puisqu'on parle de culture brassicole, il y a quand même un univers sensible qui est alimenté par des éléments de langage, par des images, avec une iconographie totalement décalée, des propositions graphiques qui viennent coloniser les étiquettes et qui sont toujours plus intéressantes et qui nous rappellent qu'on est dans un espace de liberté et qui louche, et vous l'avez dit là encore tout à l'heure, vers ce laboratoire qu'est le vin naturel.
Absolument, il y a
un parallélisme. On a strictement la même chose, exactement. Alors, ce qui est quand même important, c'est que tous ces gens-là se sont professionnalisés, donc ils s'installent dans cette logique de pérennité de leur affaire. Si on va parler techniquement, c'est spécialement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on a assisté à un phénomène dans la bière qu'on pourrait apparenter peut-être à ce qu'est la chaîne alimentaire. C'est-à-dire que les petites brasseries sont absorbées par des plus grosses, qui sont elles-mêmes achetées par des plus gros, phénomène qui va donner lieu à une concentration planétaire. Quasiment, jusqu'à prendre forme de monopole, on ne peut pas le dire autrement, qui ne disent pas leur nom. Et ça, au vu, au su et au but de tout le monde. En termes de dégustation, vous l'avez dit tout à l'heure, je nourris quand même quelques inquiétudes mineures, mais qui sont importantes peut-être à surveiller pour l'avenir de la bière artisanale. On l'a dit tout à l'heure, on a un peloton de consommateurs qui ne sont pas forcément au fait de tous ces termes techniques. Et si le pari, c'est de s'installer dans le paysage durablement, il va falloir comprendre qu'il faut parvenir à l'édification d'une culture chez les consommateurs. Et des consommateurs qui ne font pas partie de ces mousseux purs et durs. Donc il faut que la bière s'installe. Il faut savoir que ces consommateurs, souvent, leur repère s'articule simplement autour de rousse, blonde, brune, etc. Ce qui est un petit peu court en la matière. Donc il faut être vigilant à ne pas s'enfermer dans ce qui a été l'opacité du discours du vin pendant des décennies. Ça, c'est important. Et puis, de la même manière, j'ai quand même pointé une espèce de fuite en avant autour de l'amertume. Certaines bières versent dans la caricature l'exercice de style. Et là, ça nous rappelle peut-être, François-Régis Gaudry,
oui,
Vous qui naviguez dans les cuisines assez souvent, le phénomène de cuisine moléculaire qu'on a observé dans les laboratoires, enfin ces cuisines qui s'apparentaient presque à des laboratoires, ça c'est très dommageable, ou si on s'en tient à l'univers du vin, cette espèce de vinification avec fût de chêne à tous les étages. Et là, ça c'est...
Elle a très envie de réagir, Elisabeth Pierre.
Oui,
mais, très bien.
On a parlé de quoi ? On a dit la bière à sa place à table. Avec cette amertume-là, vous gommez cette dimension. Et pour finir de marquer la maturité de cet univers-là, il faut quand même soulever, signaler la création d'une nouvelle entité, la semaine dernière, je crois, d'une entité de brasseurs artisanaux. Voilà, qui prennent le large par rapport à l'industrie. La semaine dernière, si vous nous avez écoutés, je vous ai invité à manger les pissenlits par la racine. Je vous propose que cette semaine, nous procédions à la mise en bière de la mainmise de l'industrie brassicole, puisque les brasseurs de France voient certains de leurs éléments les quitter, et les artisanaux, enfin, se fédèrent au large des institutions.
Petite réaction d'Elisabeth Pierre. Est-ce qu'effectivement, comme le soulevait Dominique Hutin, le curseur de l'amertume dans la bière est poussé un peu trop loin ?
Il y a un phénomène de mode actuellement, mais c'est normal parce que c'est une tendance, c'est un mouvement. Mais à côté de ce phénomène de mode, surgit un deuxième, un troisième. C'est toute l'histoire des styles d'ailleurs. C'est toute l'histoire des brasseurs et des styles au monde. C'est des mouvements, c'est des retours. Et on a actuellement un retour sur les maltes, sur les bières, ce que j'appelle les bières céréalières. Un retour sur l'acidité avec les bières surettes et les sours. Et puis un retour sur les bières élevées en barrique. Donc, juste aussi, je voulais juste ajouter une petite remarque, c'est par rapport à cette effervescence et cette évolution et ce travail sur les styles, pour que le consommateur ne soit pas perdu. Moi, je salue vraiment toutes les initiatives qui viennent. Voilà, merci.
Non, mais c'est vrai, il y a le guide achète des bières, sérieusement, je l'ai consulté, il permet de faire le clair et de faire son choix.
Voilà, et à côté de ce type d'outils, donc, moi, je salue vraiment toutes les initiatives qui sont en région, de festivals, donc celles qui viennent d'ailleurs dans le Gard, dans Gironde, au moins de juin, début juin, à Saint-Léon.
C'est qu'on a pas parlé, la Provence Beer Connection.
Dans le Champsaur et la Provence Beer Connection qui a terminé hier. Donc il y a une occasion phénoménale là pour faire la rencontre, et là j'étais stupéfaite hier à Clermont-Ferrand, de voir tous ces gens qui viennent discuter avec les brasseurs et qui viennent et qui restent
intérêt
longtemps. Et il y a cet échange et tout le monde parle entre eux. C'est phénoménal.
Donc là je pense que sur Twitter, les gens des Ardennes nous interpellent, la Lorraine, ceci.
Et on insiste sur le fait que la bière, encore une fois, c'est non seulement une très belle expérience, ça peut être une très belle expérience gustative, mais en plus à prix raisonnable. S'il y avait un dernier tout petit coup de cœur, ce serait quoi à la brasserie du Sulose, Guillaume David?
Présent ici, ça serait la Sournoise, qui est aussi un autre style de sour qu'on parlait tout à l'heure. Sauf que là, en fait, on est sur un mélange avec du houblon, donc amertume et acidité. Donc c'est le mélange des styles. Et pour juste finir sur ce que vous disiez,
oui,
c'est vrai qu'en fait la révolution de la bière, elle est en train de se passer,
oui,
et chacun est en train de trouver sa patte dans cette révolution là donc on parle de l'amertume parce que c'était peut-être le plus facile, mais
c'est
maintenant
ça,
il y a
oui,
beaucoup de styles de bière qui sont en train de venir de beaucoup de brasseurs dont on n'a pas parlé et qui sont fabuleuses.
J'ai
donc ça va être ça va arriver aussi dans les cuisines,
et faisons-le pendant qu'on y est, un vrai joli cocorico. La bière française en plus se distingue à l'étranger. On n'a pas parlé de bière de garde, mais voilà une tradition française qui a beaucoup de succès aux États-Unis. On aura malheureusement pas le temps d'en parler. Vous en parlez d'ailleurs dans votre guide, le guide Achète des bières chez Hachette. Elisabeth Pierre, merci de votre présence.
Merci.
1000 bières françaises artisanales et internationales, 300 brasseries, 90 coups de cœur. Ce guide est vraiment très complet. Guillaume David, la brasserie du Sulose, c'est donc à Miramas, avec une très jolie collection de bières artisanales et vertueuses. Toutes les infos sont présentes sur notre site franceinter.fr à la page On va déguster. Dans un instant, c'est Agora. La semaine prochaine, on explore le goût de Lisbonne avec deux invités d'origine portugaise. Bon appétit à tous. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.